Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 18 octobre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous.
L'essentiel ce soir commence avec une addiction aux sondages.
Plus de 200 sondages commandés par l'Élysée en 5 ans, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président. Cette affaire se retrouve aujourd'hui devant la justice avec plusieurs proches de l'ancien chef de l'État poursuivis pour favoritisme. Le chef de l'État qui refuse d'être présent à l'audience mais qui est au cœur de toutes les discussions, on sera au palais de justice de Paris en début de journal. Les services secrets français aux prises avec une histoire d'espions russes. Une taupe a-t-elle été découverte au ministère de la Défense il y a quelques années? Élément de réponse à suivre. À suivre également Jean Castex qui discute secret de la confession avec le pape. On peut laver jusqu'à 10 fois son masque chirurgical, résultat d'une étude inédite. Miss France attaquée en justice et puis des Français qui paniquent un peu à 2 mois des cadeaux de Noël.
À 18h15, un jour dans le monde, au lendemain du 17 octobre, nous allons essayer d'interroger les relations entre la France et l'Algérie. Il y a des mots qui ont été dits ce week-end, d'autres qui n'ont pas été dits. On est toujours entre travail mémoriel et crise diplomatique avec l'Algérie et ce sera notre premier sujet ce soir. À 19h20, le téléphone sonne. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi vos enfants jouent subitement à 1, 2, 3 soleil ou lèchent des gâteaux au sucre. On se penche sur Squid Game, série phénomène qui est en train de pulvériser les clics sur Netflix. Cette série, certes violente, que nous dit-elle de nos sociétés inégalitaires, de notre rapport à l'argent? Ou est-ce qu'au fond, elle ne nous dit rien du tout, sinon qu'elle fascine le monde entier et que la Corée y a mis une grosse dose de soft power? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'Élysée en aura donc commandé pour 7 millions d'euros.
7 millions d'euros pour des études d'opinion, des conseils payés entre 2007 et 2012 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est l'affaire dite des sondages qui a commencé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Des sondages sans appel d'offres. Et c'est pour cela que plusieurs proches de Nicolas Sarkozy sont poursuivis pour détournement de fonds et soupçons de favoritisme. Notamment l'ancien conseiller Patrick Buisson ou l'ancien secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant. Première journée d'audience, donc cet après-midi, Nicolas Sarkozy, lui, n'est pas présent à ce procès, protégé par son immunité présidentielle. Et pourtant, il n'a été question que de lui. Le récit de l'Aurélie Carrive.
Les anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, qui sont aujourd'hui sur le banc des prévenus, n'ont fait que suivre ses ordres, à commencer par Claude Guéant, celui qu'on surnommait parfois le vice-président du temps où il était le secrétaire général de l'Élysée. C'est en tout cas l'argument de son avocat qui a abattu sa première carte avec une question prioritaire de constitutionnalité. Si l'on ne peut pas juger celui qui a décidé de tout au nom de l'immunité présidentielle, alors on ne peut pas non plus juger celui qui n'a fait qu'obéir, a plaidé Maître Elgosi. Un argument auquel la Cour de cassation a déjà répondu. Répondu, balaye Jérôme Carcenti. Il est l'avocat d'Anticor, l'association qui a porté l'affaire devant la justice.
On est en train de nous dire que finalement, la citadelle de l'Élysée serait protégée au point qu'aucun collaborateur, aucun fonctionnaire ne pourrait rendre compte à la justice. Et pourquoi pas l'étendre au Premier ministre ou au ministre? Enfin, cette idée d'une immunité extensive est absolument aberrante.
Anticor a d'ailleurs fait citer Nicolas Sarkozy comme témoin au cours de ce procès. Dans une lettre qu'a lue tout à l'heure le président du tribunal, l'ancien chef de l'État invoque son immunité et fait savoir qu'il n'entend nullement, je cite, « déférer à cette convocation ». Il se dit extrêmement surpris de cette démarche procédurale. Le tribunal dira demain s'il juge opportun de prononcer une peine d'amende à l'encontre de Nicolas Sarkozy ou de le contraindre à venir. La loi le permet, en tout cas, quand un témoin refuse de se présenter à l'audience sans raison valable.
L'Aurélie Carrive du service police-justice. Dans l'actualité judiciaire encore, cette grande consultation qui laisse sceptiques les principaux concernés. Les états généraux de la justice ont été lancés officiellement aujourd'hui par Emmanuel Macron. De la communication politique qui arrive trop tard, raille les syndicats de magistrats. C'est une chance pour la justice, leur a répondu cet après-midi le chef de l'État depuis Poitiers. On y reviendra dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Du rififi au sein des services de renseignement français.
Avec une question gênante qui refait surface depuis hier soir. Y a-t-il eu une taupe au service de la Russie au sein même du cabinet du ministère de la Défense? L'information avait été publiée il y a quelques années par Mediapart. Information confirmée hier soir dans un documentaire à la télé, dans la bouche même d'un ancien directeur de la DGSE, les services de renseignement extérieur. Sauf que cet ancien directeur en question revient aujourd'hui sur ses propos. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Alors que sait-on précisément de cette histoire d'espionnage digne d'une bonne série française?
En 2017, Mediapart assure en effet que les services de renseignement russes ont infiltré le cabinet
cabinet du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en y recrutant une taupe. Des notes de la DGSE évoquent même des rendez-vous entre cette taupe, un officier et son contact russe. Des rendez-vous, il aurait été question de la stratégie française vis-à-vis de l'Europe et des pays baltes. Dans le documentaire diffusé par France 5, la journaliste Caroline Roux interroge Bernard Bajolet, l'ancien patron de la DGSE.
Quand vous étiez aux responsabilités, vous avez eu à traiter un cas de ce type. Une taupe, comme on dit, avait intégré le cabinet du ministre Jean-Yves Le Drian.
En effet, quand j'étais directeur général de la sécurité extérieure, j'avais fait remonter. Parce que dans les années précédentes, on disait on n'a plus à perdre son temps à lutter contre des espions qui n'existent plus.
Pour la première fois, un ancien haut responsable, et non des moindres, semble donc confirmer la présence d'un espion à cette époque dans l'entourage immédiat du ministre. Rififi dans la nuit, on l'imagine. Ce matin, le Quai d'Orsay outré affirme que jamais le cabinet de Jean-Yves Le Drian n'a été mis en difficulté. Dans la foulée, rétropédalage de Bernard Bajolet qui assure n'avoir parlé que de l'augmentation en général de l'espionnage, d'où l'importance du contre-espionnage. Le contre-espionnage, mission dévolue à la DCRI, les renseignements intérieurs, et non à la DGSE, les renseignements extérieurs. Alors, petit coup de griffe entre service ou rond dans l'eau, John Le Carré aurait adoré.
Claude Guibal, merci. La rédaction internationale, lui, avait usé des services secrets pour faire la guerre à l'Irak. Colin Powell est mort aujourd'hui des suites du Covid à l'âge de 84 ans. Premier secrétaire d'État afro-américain, chef de la diplomatie sous George Bush, on se souviendra de lui montrant une fiole d'anthrax à la tribune de l'ONU en 2003 pour justifier d'une intervention militaire contre Saddam Hussein.
Ce devait être une visite discrète, mais elle a pris un tour nouveau avec le rapport sur
le rapport sur les victimes de pédophilie au sein de l'Église, au cœur aujourd'hui donc de la rencontre entre Jean Castex et le pape, le premier ministre français reçu par François au Vatican pour célébrer officiellement le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Les deux hommes en ont profité aussi pour parler secret de la confession, droit canonique et droit pénal. À Rome, Bruce de Galzin.
35 minutes de tête-à-tête en espagnol avec le pape et Jean Castex est sorti conquis de son entretien. Un pape chaleureux et direct qui, le premier, a parlé du rapport Sauvé en saluant le courage de l'Église de France et en redisant qu'il pensait d'abord aux victimes. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, a lui ajouté devant les autorités françaises que l'engagement de l'Église de France restait lié au secret de la confession.
Son engagement à œuvrer pour la dignité de la personne humaine sera encore plus fort et plus déterminé, en pleine collaboration avec les autorités civiles, dans le respect de la nature, de la mission et de la structure sacramentelle de l'Église qui lui sont propres.
Matignon non plus ne bougera pas sur ce sujet. Il faut trouver le moyen de concilier le secret de la confession avec le droit pénal et le droit des victimes, dit Jean Castex. Il estime que malgré les difficultés, c'est toujours l'esprit de concorde qui finit par l'emporter entre la France et le Saint-Siège. Mais ces mots sont clairs.
C'est l'Église de France qui a commandé ce rapport et permis à cette commission de travailler en totale indépendance. Il lui appartient maintenant de trouver les réponses nécessaires et la séparation de l'Église et de l'État, chacun le sait, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi.
Et Jean Castex a fini par paraphraser le pape François qui qualifiait la France de fille aînée de l'Église, mais pas toujours fidèle. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Les députés britanniques ont observé une minute de silence aujourd'hui en hommage à l'un des leurs, David Ames, mortellement poignardé en fin de semaine dernière pendant sa permanence parlementaire par un jeune britannique d'origine somalienne ayant brièvement suivi un programme de déradicalisation.
Surtout, Sébastien, ne jetez pas vos masques chirurgicaux, lavez-les.
La recommandation ne date pas d'hier, Fabien, on sait depuis un bon moment maintenant que les masques chirurgicaux anti-Covid peuvent être lavés en machine, sauf qu'aucune étude n'avait été menée sur la question. C'est fait grâce à une équipe française du CHU de Grenoble et c'est très rassurant puisque les masques chirurgicaux restent filtrants après plusieurs lavages. Explication de Philippe Cinquin, professeur en santé publique, responsable de l'étude.
Cette étude a permis de démontrer que si on lave 10 fois un masque chirurgical, il va conserver les propriétés de la norme qui s'applique à lui en termes de filtration, en termes de respirabilité et en termes de propreté. Le protocole de lavage est celui qui est recommandé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc il s'agit de mettre le masque dans une machine à laver avec un cycle normal, sans précaution particulière avec les autres vêtements, à 40 degrés. Par contre, il est important de ne pas mettre le masque chirurgical au sèche-linge, mais de le faire sécher sur un étendoir naturel. Les éléments les plus fragiles finalement dans un masque, ce sont non pas la matière filtrante, mais la barrette nasale et tout particulièrement le point de fixation des élastiques au masque chirurgical. Donc la recommandation consisterait à l'observer une fois qu'il a été lavé pour s'assurer que la barrette nasale est en bon état et que les élastiques aussi.
Philippe Cinquin, professeur en santé publique avec Hélène Chevalier. Lavage, donc oui, mais pas de séchage et pas de micro-ondes non plus, comme le précise Fabienne Sintès. C'est un nouveau record pour le gasoil, 1,55€ au lieu d'1,53€, 2 centimes de plus la semaine dernière, 2 centimes de plus aussi pour le sans-plomb 95. On attend désormais une action du gouvernement qui devrait prendre la forme d'un chèque carburant plutôt que d'une baisse des taxes. Miss France attaquée en justice. Le concours de beauté est souvent dans le viseur des associations féministes. Jugé rétrograde, sexiste cette fois, l'association Oser le Féminisme a choisi un nouvel outil pour lutter contre le concours, la justice. L'association a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny en soutien à 3 jeunes femmes qui n'ont pas pu s'inscrire au concours. Rémi Brancato, bonsoir.
Bonsoir.
Oser le Féminisme estime que la participation à Miss France équivaut à un contrat de travail et que ce contrat est discriminant.
Oui, Oser le Féminisme accompagne donc 3 femmes qui ne se sont pas inscrites au concours car elles ne remplissaient pas certains critères imposés par les organisateurs. L'association estime que candidater revient à remplir un contrat de travail et que ce contrat ne respecte pas le droit du travail. Il est discriminant pour Alissa Arabar, juriste et porte-parole d'Oser le Féminisme.
Le règlement de ce concours contient un grand nombre de dispositions discriminantes, celles qui ont trait à l'apparence physique des candidates, qui ne doivent pas porter de tatouages, qui doivent garder la même coiffure et le même poids, le fait de ne pas boire ou fumer en public, de ne pas pouvoir user d'ironie pour pouvoir participer à ce concours.
Le caractère sexiste et rétrograde, je cite, du concours de beauté est dénoncé depuis longtemps par Oser le Féminisme et cette action en justice est donc une nouvelle étape de son combat.
Notre objectif, c'est de transformer la société pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit effective. Ça passe par l'ensemble des aspects de la vie, y compris la culture et donc la télévision, et notamment dans le cadre d'émissions comme le concours Miss France, qui font énormément d'audience et qui donc ont un impact sur la façon dont les femmes sont traitées dans la société.
La société Miss France nous assure que sa nouvelle présidente, la productrice de télévision Alexia Laroche-Joubert, n'avait pas eu connaissance de cette action au Prud'homme ce matin. Elle n'a pas réagi pour le moment.
Rémi Brancato, merci.
Et sinon, Sébastien, on pourrait appeler ça Noël en octobre.
À plus de 2 mois des festivités, en effet, les Français se préoccupent déjà de faire leurs achats de fin d'année. Les pénuries de semi-conducteurs, de certaines matières premières ont, semble-t-il, affolé certains consommateurs. Exemple à Tours avec ce reportage de Mathilde Bouquerel.
Dans les rayons de la Grande Récré, place Jean Jaurès à Tours, on les reconnaît tout de suite avec leurs paquets emballés dans du papier cadeau et leur air de conspirateur. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui ?
Les achats de Noël pour ma petite fille. Elle a 2 ans. Bah oui, crainte à une pénurie de jouets, peur de pas trouver ce qu'on veut.
Des cadeaux pour ma petite fille, un calendrier de l'Avent et puis des Playmobil. Parce que déjà, moi je travaille dans les médicaments, même les médicaments n'est pas sûr d'être livrés, en temps et en heure, et puis bah, c'est bien que les enfants aient quand même quelques jouets.
Une inquiétude que Charles Manchon, le responsable du magasin, a clairement constatée.
Normalement, à cette période, on reçoit énormément de choses, mais on ne vend pas énormément. Et là, on reçoit énormément et il faut qu'on assure les ventes derrière parce que oui, effectivement, il y a des gens, ça fait déjà un bon mois ou deux qu'on entend parler des pénuries un peu partout. Même le lendemain, dès qu'il y a un article qui paraît, le lendemain, on a des gens qui nous citent l'article.
Pourtant, Charles Manchon l'affirme, il n'y a pas de pénurie.
Les fournisseurs ont eu vent un peu des difficultés à venir, nous ont demandé de commander tôt et beaucoup, ce qu'on a fait. Ce qui fait que là, on est vraiment armé pour Noël et non, on a 3 réserves qui sont pleines à craquer de jouer, franchement... Je m'inquiète pas du tout pour Noël.
Charles Manchon espère d'ailleurs que cette année compensera les mauvais chiffres de Noël 2020.
Mathilde Bouquerel de France Bleu Touraine. Et puis un dernier mot de sport avec cette mauvaise nouvelle pour le PSG. Neymar est à nouveau blessé aux adducteurs cette fois. Il sera donc forfait demain soir pour le match de poule de Paris contre Leipzig en Ligue des Champions.
Je ne sais pas si je vais m'en remettre, Sébastien. Merci beaucoup. À tout de suite dans Sous les radars, dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un monument controversé, pour le moins en Belgique. Ce soir, nous interrogeons les rapports entre la France et l'Algérie après les commémorations du 17 octobre, donc d'avant-hier, enfin d'hier, mais pas seulement. Et puis à 19h20, je vous remets le téléphone sonne en tête. Si vous voyez vos enfants jouer à 1, 2, 3 soleil, c'est qu'ils ont vu Squid Game, cette série coréenne qui fait un énorme carton sur Netflix. Derrière cette série, certes sa violence aussi, il y a aussi des thèmes thèmes abordés, l'argent tout puissant, les très riches qui regardent s'entretuer, les très pauvres. Alors, est-ce qu'on peut lire des choses de nos sociétés contemporaines? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ces 9 épisodes, ou est-ce que c'est tout simplement très violent et surtout très cynique? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant de se lancer.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Calac au programme de demain, de la pluie au nord de la Loire.
Dès ce soir, la pluie au nord de la Loire, elle est arrivée par la Bretagne et là on la retrouve des Pays de la Loire vers la Normandie. Elle va gagner la région parisienne, le nord de la Seine ce soir et cette nuit. Et puis demain, il restera juste quelques pluies de la frontière belge au nord de l'Alsace, mais le soleil reviendra sur cette partie du pays l'après-midi.
Et sinon, ailleurs, du soleil en revanche.
Oui, le soleil s'imposera. Alors, il faudra un petit peu de patience sur les régions justement au nord de la Loire, vers le Val-de-Saône, vers le Midi-Toulousain. On aura des nuages bas et des brouillards qui retarderont l'arrivée du soleil, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Et puis, sur le Languedoc-Roussillon, là, les nuages persisteront toute la journée. Ils donneront quelques gouttes. Le vent d'autan soufflera jusqu'à 70 km à l'heure. On aura un vent de sud qui soufflera un petit peu partout. Il atteindra 60 km à l'heure sur la pointe bretonne. Et puis, pour les températures, de la douceur, Fabienne. Alors, 7 à 15 degrés le matin, 18 à 22 degrés l'après-midi sur le nord-est, 21 à 25 ailleurs et on ira même jusqu'à 28 du côté de Biarritz.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, on se retrouve tout à l'heure après 19h.